Réplique, y a-t-il une religion de la Shoah ? Avec Elisabeth de Fontenay et Alain Besançon. Dans sa correspondance avec l'historien allemand Ernst Nolte, François Furet écrivait « En persécutant le peuple juif, en cherchant à le détruire, les nazis tuent la civilisation de l'Europe par les armes d'un des peuples les plus civilisés d'Europe. Nous, je veux dire nous les Européens et non seulement les Allemands, ne sommes pas sortis de ce malheur qui va nous survivre. » Et en effet, la Shoah, comme on dit depuis le film de Claude Lanzmann, déroge à l'universel travail du deuil. Le temps n'a pas cicatrisé cette blessure, il a ouvert et creusé la plaie. Avec le temps, tout se défait, tout s'estompe et tout s'en va, sauf ce passé incontournable, sauf ce crime dont la physionomie singulière et la signification paradigmatique ont émergé progressivement de l'océan de la souffrance. C'est un paradoxe qu'ont médité Elisabeth de Fontenay dans « Actes de naissance », son livre d'entretien avec Stéphane Bou, et Alain Besançon dans l'essai qui vient de paraître « Problèmes religieux contemporains ». Voici donc ma première question. Faut-il s'inquiéter de cette cristallisation de la mémoire ou pensez-vous, après François Furet, qu'elle doit être considérée, tout compte fait, comme un sentiment politique essentiel chez les citoyens des pays démocratiques de ce nouveau siècle. Alain Besançon.
Shoah n'a pas été créé par Lanzmann. Le mot est de Ben Gurion.
Oui, mais avant, il a été popularisé après le film de Lanzmann.
Oui, avant, c'était Urban, mais ce n'est pas une... Enfin, Shoah veut dire catastrophe. Et c'est un mot qui a été spécialisé sur ce crime inouï. Alors la question, c'est... Si la Shoah est destinée à cette fixation sur la Shoah est destinée à se prolonger indéfiniment ou pas. Moi, je pense qu'elle est destinée à se prolonger indéfiniment. Et justement parce que, disons que, d'une certaine façon, le peuple juif a fait du souvenir un devoir religieux. Et il est bien entendu qu'il a parfaitement le droit, et c'est dans le cycle religieux juif que ce souvenir est intégré de façon permanente. D'autre part, et là c'est peut-être ce qui va, disons, pas annuler, mais modifier le jugement, ce devoir religieux s'est autonomisé. Et peut-être est devenu mais quelque chose comme une religion. Mais bien entendu, ça ne peut pas être une religion du peuple juif, puisque le peuple juif a une religion, et que le monde chrétien, au fond, est fondé sur la vérité de cette religion, qui a été donnée par Dieu, enfin. Et la question est de savoir si ces phénomènes religieux, cette religiosité, disons, je ne pense pas que ça soit une religion, si cette religiosité de la Shoah est compatible avec la religion de la Torah et du Talmud. C'est ça le point. Et il me semble que c'est un peu conflictuel et ça va un peu dans les deux sens. La religiosité de la Shoah, disons que ce soit un mot, pas religion, mais religiosité, se continue, s'aggrave, ne passe pas, parce que les religiosités ne passent jamais. Hein? N'oublions pas qu'il y a encore des Samaritains et 2 ou 3 villages samaritains en Israël. Toutes les hérésies, et Dieu sait qu'il y en a eu dans le christianisme, et il y en a eu quelques-unes aussi dans par exemple, le karaïsme, dans le judaïsme, les hérésies se continuent indéfiniment. Hein? Donc les religiosités ne meurent pas. Hein? C'est comme ça. Et c'est un fait historique, objectif, je ne l'explique pas, mais c'est un fait. Donc ça va continuer, et ça va continuer parce que si cette religiosité de la Shoah présente des, comme toutes les hérésies, des avantages pour ceux qui en sont les adeptes. Mais peut-être qu'il faut passer la parole à
Elisabeth de Fontenay. J'aurais des questions à poser, mais... Élisabeth de Fontenay.
Alain Besançon, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre de votre livre, mais qu'il faut lire avec le chapitre sur l'orthodoxie, ce qui concerne le judaïsme dans le chapitre sur l'orthodoxie. Il y a un entrelacement tout à fait inédit de sociologie ou d'histoire, je ne sais pas très bien, et de théologie. Et il y a chez vous une connaissance extrêmement fine du fait religieux juif. Cette connaissance fine que vous exigez des catholiques, du reste.
Oui, les pauvres, c'est bien rare qu'il l'ait.
Et je voudrais rappeler que Georges Bensoussan, qui est un historien, qui est le rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah, et le responsable éditorial au mémorial de la Shoah, a écrit en 1996, dans le débat, un article qui critiquait durement cette sacralisation de la Shoah. Au fond, il y a près de 20 ans, il disait la même chose que vous. Et il s'en prenait par exemple à l'initiative de Serge Klarsfeld, qui consistait à emmener en pèlerinage, sikh, les fils et filles de déportés, en les transportant dans les autobus et les trains qui avaient déporté leurs parents. Et c'était un texte d'une justesse implacable, qui avait été mal reçu par la communauté, et que pour ma part, j'avais considéré comme salutaire. C'est vous dire mon assentiment à votre propre texte, avec cette différence que le sien, celui de Georges Bensoussan, était juif et que le vôtre est catholique. Et cette autre différence, que lui ne parlait que du point de vue de l'historien et que vous parlez, vous, d'un point de vue théologien catholique. Car c'est en catholique pratiquant que vous rappelez les juifs à leur tradition d'étude et d'observance. Et que vous les appelez à la méfiance vis-à-vis de ce que vous appelez la religion ou la religiosité de la Shoah, nouvelle dévotion, culte mémoriel, auquel vous reprochez, à juste titre, d'avoir transformé le culte de Dieu en idolâtrie du peuple juif. Et vous reprochez d'autre part à ce culte d'être une hypermnésie, ayant pour corollaire l'amnésie d'autres génocides et, par exemple, de ceux du communisme. Mais je vous pose une question, là, que faites-vous des juifs non religieux dont les familles ont été exterminées par les nazis? Quelle pratique de la mémoire leur laissez-vous? Beaucoup d'entre eux, et j'en suis, ne se seraient jamais identifiés comme juifs s'il n'y avait pas eu Auschwitz et la piété envers leurs morts assassinés, ce deuil interminable, incompréhensible, leur tenant lieu d'appartenance et de persévération dans l'être juif.
Ah, c'est des questions. Je suis d'abord enchanté que Monsieur Bensoussan, dont je n'ai pas lu le texte, et disons 20 ans avant moi, ait fait ce devoir qui incombe aux Juifs, car ce n'est pas les catholiques d'intervenir sur cette question. Hein, c'est les Juifs qui doivent faire leur ménage, hein, dans leur propre pratique, dans leur propre spiritualité, et qui est très important d'ailleurs pour ceux qui sont, disons, de la religion biblique. Parce que si les juifs se trompent, les chrétiens se trompent aussi. Ils ont plus de facilité, d'ailleurs, que les juifs à se tromper sur ce domaine. Par exemple, le pèlerinage dont vous parlez, mes petites filles ont été emmenées, qui sont juives par leur grand-mère, si vous parlez, oui, leur grand-mère, ont été emmenées avec toute leur école en pèlerinage à Auschwitz. J'ai trouvé ça quand même un peu gros. Quand même, pèlerinage à Auschwitz, c'est un pèlerinage à un lieu de mort, un pèlerinage qui n'est pas dans l'esprit du judaïsme, qui quand même se souvient des bénédictions de Dieu et qui ne se souvient pas des malédictions. Il n'y a pas de malédiction qui fasse partie du souvenir juif. C'est toujours cette magnifique prière de Pâques. Hein, si tu n'avais fait que ça, ça aurait suffi. Si tu n'avais fait que nous sortir d'Égypte, ça aurait suffi. Si tu n'avais fait que nous donner la manne, ça aurait suffi, etc. C'est une succession de bénédictions. Il n'y a jamais de rappel de malédiction. La malédiction n'est pas dans la prière juive. Hein. Et disons, je n'aime pas que dans cette religiosité, ce soit en somme Hitler qui définissent le peuple juif. Et c'est un peu ce que reproche Fackenheim. Alors, et d'autres rabbins de même tendance. Et le rabbin d'Angleterre. Enfin, il n'y a pas de raison de fixer le peuple juif à cet épisode. Non, vraiment pas.
Alors, vous dites, Alain Besançon, c'est aux juifs qu'il revient de faire le ménage. Isaïe de Fontenay vient de citer Georges Bensoussan. Plus récemment, dans un livre qui est une satire absolument terrible, Tova Reich, qui a été marié pendant un certain temps avec le directeur, l'ancien directeur du musée de l'Holocauste. Son livre s'intitule « Mon Holocauste ». Et il a été célébré aux États-Unis par Cynthia Ozick. Il est d'une drôlerie extraordinaire. Personne n'a osé même en parler en France, sauf que le lendemain pour en dire le plus grand mal. Et je trouve que c'est un livre absolument prodigieux qui va très très loin dans cette critique des excès de ce que vous appelez la religiosité de la Shoah. Mais pour définir un peu mieux ce que vous entendez par là, peut-être faut-il en effet s'arrêter à ce livre de Fackenheim, le rabbin de Toronto, La présence de Dieu dans l'histoire, puisque il parle là de la voie prescriptive d'Auschwitz, ce 614e commandement qui consiste à ce devoir de rester juif, au fond, pour ne pas paracher l'œuvre de Hitler. D'une certaine manière, la mort de Dieu, pour parler comme Lévinas, a pris dans les camps d'extermination la signification d'un fait quasi empirique. Il n'empêche que le devoir d'être juif n'a jamais été aussi, ne s'est jamais affirmé avec une telle acuité, aussi bien pour les juifs religieux que pour les juifs séculiers, car ne plus assurer la continuation d'Israël reviendrait à parachever l'entreprise criminelle d'Hitler. Mais si je vois bien quels sont les dangers de ces pèlerinages, de cette espèce de tourisme pédagogique en Pologne, à Cracovie ou à Auschwitz, je ne vois pas comment les juifs pourraient ne pas entendre cette voix prescriptive d'Auschwitz. Ils peuvent lui désobéir, mais quand même, il est difficile de ne pas l'entendre. Non, Alain Besançon?
C'est-à-dire qu'il me paraît quand même problématique, enfin, dans Fackenheim, j'admire ce texte, qui est très beau, très pathétique, très sincère, très... Enfin, le sang est là. C'est que le 614e commandement abolit tous les autres. Et c'est un petit peu embêtant qu'il n'y ait plus que le 614e commandement. Mais en même temps, il faut bien voir que ce 614e commandement, rester juif parce qu'on est juif, rester près de sa communauté, c'est dans Hillel d'ailleurs, ne quitte pas ta communauté. C'est un vieux commandement juif. Mais enfin, ça entretient d'abord une espèce de théologie super négative. On est juif parce qu'on est juif. Il n'y a plus de référence au fondateur d'Israël, à celui qui a passé alliance avec Israël, à Dieu, tout simplement. Et alors, on tourne. Alors, qu'est-ce qui reste à adorer dans cette théologie super négative? Bien, le peuple juif lui-même, et ça, ce n'est pas l'intention de Fackenheim, mais ce qui peut être le décours de cette religiosité. D'autant que cette religiosité a un avantage quand même énorme, c'est qu'elle refait l'unité du peuple juif. Parce que tout le monde, tous les juifs, où qu'ils soient, savent qu'ils ont été l'objet d'une tentative d'anéantissement, d'une tentative d'extermination. Et en cela, peu importe qu'ils soient observants, ou demi-observants, ou super-observants, ou rien du tout, ils savent qu'ils sont juifs, ils savent qu'ils sont juifs par rapport à la Shoah. Mais alors là, c'est dangereux. Je crois que c'est dangereux de se rattacher uniquement à cet événement.
Élisabeth de Fontenay.
Au fond, ce qui me gêne le plus dans le 614e commandement de Fackenheim, ce n'est pas « reste juif », parce que j'ai obéi à ça personnellement, mais c'est pour rester juif, il faut se marier entre juifs. C'est-à-dire que c'est quand même un interdit très fort sur les mariages mixtes, me semble-t-il. Mais au fond, Alain Besançon, vous exigez toujours des juifs, au fond, qu'ils soient religieux. Et vous ne voyez pas, il me semble que vous ne voyez pas que la majorité, en tout cas dans la diaspora, la majorité des juifs, sont juifs à cause de traditions qui ne sont pas forcément religieuses, de traditions politiques, de traditions du mouvement ouvrier aussi, pense au Bund. Et il me semble que cette manière que vous avez de rabattre l'être juif sur le religieux est une façon de ne peut-être pas prendre conscience du caractère tragique au sens d'un conflit de deux droits. C'est le contraire de la concurrence des mémoires. Du caractère tragique du fait que les martyrs de l'un et l'autre camp se sont ignorés. Et parce que votre point de vue est non seulement un point de vue catholique qui ramène les juifs à leur religion, à la véritable religion, à l'observance, mais c'est aussi un très fort reproche vis-à-vis de ceux qui absolutisent le crime de la Shoah en ignorant systématiquement les crimes du communisme. Or, moi, je vois quelque chose de parfaitement tragique, là, et je vous rappelle que les victimes du goulag ont ignoré, eux aussi, les crimes du nazisme, à l'exception de Vassili Grossman et de Vie et Destin, qui est pour nous, pour moi, un livre absolument unique, irremplaçable.
Oh, je suis profondément d'accord avec vous, bien sûr. D'abord, la plupart des juifs ignorent leur religion. Les catholiques sont très ignorants de leur religion. Mais je me suis aperçu, à mesure que je me dis ça, que les juifs le sont aussi. Vous êtes allé à Rachi quelquefois, vous avez là les juifs qui ont le sentiment d'être juifs, hein, mais ils ignorent tout de leur religion.
Mais est-ce que c'est si grave que ça?
Alors, voilà, il me semble que j'ai un chapitre pour dire qu'il y a une espèce d'orthodoxie ontologique chez les juifs. Hein, et qu'ils n'ont pas besoin, en somme, d'être théologiens. Et d'ailleurs, il y a très peu de théologie dans le judaïsme. Il y en a très peu. C'est plutôt une orthopraxie qui, quelquefois, se réduit à très peu de choses. À rester dans ta communauté, justement, comme dit Hillel. Mais, bon, à un certain point, ils ont quand même intérêt à connaître leur religion. Les catholiques sont ignorants, ils ont intérêt aussi à connaître leur religion. Parce qu'actuellement, toutes les religions sont en train de s'enfoncer. Je parle du côté chrétien, hein, protestant, catholique, orthodoxe dans certaines mesures, dans une autre religion qui prend les défroques de la précédente, qui est l'humanitarisme. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi que l'humanitarisme est dangereux pour les juifs. Parce que les juifs ne sont pas humanitaires. Du moins, ils ont des ennemis. Or, le caractéristique de la religion humanitaire, c'est qu'il est interdit d'avoir des ennemis. Alors, comme les juifs ne sont pas gentils, qu'ils sont dans l'Israël assez rudes, eh bien, en étant au nom de l'humanitaire, et qui peut prendre des formes évangéliques, chrétiennes, catholiques, etc., on n'aimerait pas les juifs. Et c'est ce qui se passe ces temps-ci.
Alors, justement, je reviendrai tout à l'heure sur ce 614e commandement et les formes qu'il peut prendre, mais vous avez parlé d'humanitaire. C'est très intéressant, Alain Besançon. Parce qu'il me semble qu'il se développe aujourd'hui une religion de l'humanité dont la religion de la Shoah est une des composantes essentielles et ça joue de manière très paradoxale au détriment des juifs.
Mais oui.
Alors, la démocratie, comme l'a admirablement montré Tocqueville, au sens moderne, c'est la généralisation non seulement de l'idée du semblable, mais du sentiment du semblable. Or, le nazisme a voulu extirper ce sentiment du cœur des hommes pour instituer l'idée et même le sentiment de la hiérarchie des races. Et on a trahi à Auschwitz, a écrit Habermas, on a touché à Auschwitz à une sphère profonde de la solidarité entre tout ce qui peut porter face humaine. Et il me semble que s'est développée à partir de là une sorte de religion de l'humanité, c'est-à-dire que la Shoah, c'est comme l'accompagnement négatif de la conscience démocratique et l'incarnation du mal où conduit cette négation. Là, je cite encore François Furet dans l'article très important qu'il a consacré au livre de Goldhagen, Les bourreaux volontaires de Hitler. Il s'interrogeait sur le succès extraordinaire rencontré par ce livre en Allemagne, alors qu'il mettait en accusation l'Allemagne tout entière. Mais, en effet, il y avait une conversion des passions nationalistes en passion de l'universel, en Allemagne même. Mais précisément, la Shoah, c'est le repoussoir de la démocratie. L'Europe se définit maintenant par sa religion, cette religion de l'humanité. Elle fuit donc ses propres origines. Elle donne congé à tout ce qu'elle a été, à sa propre civilisation, pour n'incarner que les valeurs universelles. Elle refuse de se concevoir, on l'a vu, comme un club chrétien, etc. Et on en vient à se dire que qui aujourd'hui est impie, qui trahit cette religion de l'humanité, née de la Shoah elle-même, eh bien les Juifs. Les Juifs, parce que le sionisme, qu'est-ce que c'est sinon la défense et l'illustration d'un État ethnique, d'un État juif défini par les droits du sang. Donc il y a cette situation tout extraordinaire d'un retournement contre les juifs eux-mêmes de la religion de la Shoah aujourd'hui. On a pu croire qu'elle les protégeait, je crois qu'aujourd'hui elle les expose et elle les menace. Car ils seront les seuls impies de la nouvelle religion, les juifs avec le sionisme.
Moi, je suis très content de vous entendre parce que c'est exactement ce que je pense. N'est-ce pas? Si, regardez d'un point de vue théologique, le nazisme est une espèce d'imitation perverse, j'entends bien, du judaïsme. C'est-à-dire, il y a un peuple élu, c'est le peuple allemand, qui a des qualités particulières, hein, et qui doit être mis au sommet de la hiérarchie des races qui est donnée par la nature. Bon, d'abord, ce qu'il y a de pervers, c'est que le judaïsme n'a jamais dit que les juifs avaient des qualités particulières. Vous chercherez vainement dans la Bible un passage où on oui. dit que les juifs sont plus intelligents, plus vertueux, plus au contraire. S'il y a un texte qui vraiment atteint à travers toute l'humanité les peuples juifs comme étant bénéficiés de plus de grâce que les autres, c'est bien la Bible, n'est-ce pas?
C'est un livre très coléreux, la Bible.
C'est un livre très coléreux. Mais le Concile de Trente a complètement avalisé ça en disant que tout le monde avait participé à la pire chose qui soit, et particulièrement les chrétiens. Hein, particulièrement les chrétiens qui, ayant bénéficié des grâces, auraient dû se conduire différemment. Dans votre question, il y avait un autre point. Oui, c'est les juifs, par leur situation historique, développent un point juste qui me paraît indiscutable, c'est qu'ils ont des ennemis. Ils les désignent.
Ils ont des ennemis. Alors, ils sont désignés eux-mêmes.
Alors, la religiosité.
Ils les désignent et ils sont désignés. Quand bien même ne les désignerait-il pas, il doit bien constater que des ennemis les désignent. En tant qu'Israéliens, mais aussi en tant que Juifs.
Oui, mais enfin, tout simplement, disons, les soldats de l'armée, de l'armée israélienne n'ont pas de scrupules de tirer sur leurs ennemis, tandis que, on a tendance à faire de soldats européens, autant d'abbé Pierre, qui donne le biberon, qui apporte le pansement, et qui a plus peur de la bavure que de la balle de l'ennemi. Ce n'est pas le cas de l'armée israélienne, qui montre des vertus militaires assez remarquables depuis 60 ans et qui ont déserté un peu le monde occidental.
Non, mais je disais cela parce que on a l'impression que pour une majorité d'Européens, et je me tourne aussi vers Elisabeth de Fontenay, le malheur des Juifs appelle la venue d'une humanité que ne romprait aucune séparation intérieure, et il appelle l'Europe à donner l'exemple en se déprenant d'elle-même, en choisissant, pour ne plus jamais exclure personne, en quelque sorte, la voie rédemptrice de l'indétermination. Je cite Jean-Marc Ferry, l'identité européenne est une identité dont le principe consiste à s'ouvrir à d'autres identités. Bon. Or, l'identité juive, ce n'est pas tout à fait cela, et le mur de sécurité est souvent défini comme un mur de l'apartheid, et pour ce qu'on pourrait appeler un polynisme post-religieux, il rappelle le mur d'inimitié dénoncé dans l'Épître aux Éphésiens. C'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a plus fait qu'un. Il a détruit dans sa chair le mur d'inimitié et de séparation. Il a annulé dans les décrets la loi des commandements, et on a l'impression que les Juifs, d'une certaine manière, reconstruisent le mur d'inimitié et de séparation que la religion de la Shoah invite aujourd'hui à démolir. C'est ce paradoxe-là que je voulais, si vous voulez, mettre en avant, Elisabeth de Fontenay.
Je voudrais revenir, je suis d'accord avec vous deux complètement sur ce point. Je voudrais revenir, de ce point de vue très politique que vous avez abordé, à un point de vue plus ontologique. Ce qui me déconcerte, Alain Besançon, un petit peu, dans votre chapitre sur la religiosité de la Shoah, c'est que j'ai l'impression que vous ne voyez pas vraiment la brèche, la rupture anthropologique en quoi consiste la destruction des Juifs d'Europe. Et le douloureux paradoxe, me semble-t-il, c'est l'articulation impossible du singulier et de l'universel que dissimule, bien entendu, le crime, la notion de crime contre l'humanité. Le crime des chambres à gaz, le crime des Einsatzgruppen, la Shoah par balle, bien sûr, c'est un attentat contre l'humanité. Mais il reste qu'il n'a touché que des Juifs, et des Juifs et des Tziganes. Et c'est l'anéantissement du « nous », je veux dire l'anéantissement de la première personne du pluriel. J'emploie de nouveau le mot de désastre anthropologique, unique, irréversible. Et je dirais que comme de moins en moins d'historiens, mais comme presque tous les philosophes, à l'exception de Jean-François Lyotard et de Philippe Lacoulabarthe, qui ont entendu la leçon d'Adorno dans son texte « Après Auschwitz », j'ai l'impression que vous déniez quelque peu qu'il y ait eu là une césure, un point de rupture dans l'histoire occidentale, un avant, un après, une entaille, une amputation, une blessure insicatrisable, quelque chose d'intraitable. Je pense au second vers du Dies Irae, « solvet seclum in favilla », étant bien entendu que ce qui est réduit en cendres, ça n'est pas le siècle, c'est le monde.
C'est le monde.
C'est le monde commun.
Oui.
C'est le monde commun. Et Auschwitz, à Auschwitz, c'est l'idée même de monde commun qui a été réduite en cendres. Et Auschwitz, c'est un projet à soi tout seul, et non pas l'essai d'un autre projet, sans dialectique possible, sans promesse de dépassement, sans signification. Et bien que vous ne cessiez de rappeler l'unicité de la Shoah, votre hantise légitime des crimes du communisme, en quelque sorte, vous fait en quelque sorte assimiler cette prise de conscience de la catastrophe, du désastre, à une critiquable religiosité de la Shoah. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut laisser subsister cette expérience ontologique d'une coupure dans l'histoire, un avant et un après?
Alors, Alain Besançon.
Je voudrais rappeler que l'humanité se divise toujours depuis le début, depuis l'assemblée du Sinaï, se divise toujours en juifs et en goy. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'anéantissement. La parole de saint Paul que le mur a disparu, c'est un mur disparu en principe, mais dont la réalisation est renvoyée à la fin du monde. Hein, quel est le statut des chrétiens entre les juifs et les païens? Ben, c'est un tertium genus, c'est un troisième peuple dont le statut est encore assez confus, assez voilé, nous ne savons pas très bien. Mais enfin, en principe, les chrétiens sont des goyes, hein, qui simplement, par l'intermédiaire du Christ, sont d'une certaine façon intégrés au peuple juif. Alors, nous, les chrétiens sont en principe des juifs, mais enfin, tout ceci est renvoyé un peu à l'eschatologie. Le crime contre les juifs, bon, là, moi j'ai toujours été très frappé que le nazisme a fait 10 millions de morts dans les zones qu'il a gouvernées. L'américain là qui a fait un très très beau livre très documenté, La Terre de sang,
hein.
Timothy Snyder, La Terre de sang,
c'est excellent. Timothy Snyder, bon, Staline a tué 10 millions, Hitler a tué 10 millions. La part n'est pas égale. Je ne connais pas un seul juif qui étaient condamnés à mort et exécutés pour des crimes communistes, alors qu'il y a eu pas mal de nazis exécutés pour des crimes nazis. La balance n'est pas égale. Je pense qu'il y a chez les Allemands un sentiment bien refoulé, parce qu'ils sont tellement assommés par cette épouvantable mémoire qu'ils essayent de se convertir à la religiosité de la Shoah pour éviter les sentiments intime, mais les sentiments intimes, je voudrais bien savoir quels y sont, hein, et en particulier le double jugement sur les crimes communistes et sur les crimes nazis.
Alain Besançon, est-ce qu'on ne peut pas penser ensemble, enfin comment dire, d'une part déplorer et même dénoncer le deux poids deux mesures, hypermnésie, vous l'avez écrit, du nazisme, quasi amnésie du communisme, et en même temps méditer l'unicité de ce qu'Élisabeth de Fontenay appelle plus volontiers, d'un terme neutre, la destruction des juifs, parce que tout de même, Hannah Arendt le dit d'ailleurs très bien à la fin de son livre, par ailleurs contestable, Eichmann à Jérusalem, il s'est passé là quelque chose de sans précédent. Une politique a été menée, exécutée, une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif. De partager la terre, les nazis se sont arrogés le droit de décider qui peut et ne peut pas habiter le monde, aucun autre génocide antérieur ni postérieur n'a eu en quelque sorte cette ambition. Et il faut aussi compter avec la mise en œuvre industriel du crime. Ce n'est tout de même pas rien. Oui. Milner le dit, le juif est celui pour qui les chambres à gaz ont été inventées. Donc tout cela doit pouvoir être médité et en même temps nous devons être, là encore comme le disait Elisabeth de Fontenay, les lecteurs de Vassili Grossman et comprendre et même essayer de penser le lien qui peut exister, les analogies entre stalinisme et nazisme. Tout ça
alors,
devrait être pensé
bon,
ensemble.
Enfin, en mesure, au fur et à mesure de ma méditation, enfin, ma méditation, pour pas exagérer, mais enfin, de mon étude, je suis arrivé quand même à distinguer très fortement communisme et nazisme. Ce sont des horreurs, mais ce ne sont pas la même. C'est démoniaque, mais ce n'est pas le même démon. Hein. Là, le nazisme est une espèce d'imitation démoniaque du judaïsme. Le communisme est une imitation démoniaque du judaïsme et du christianisme. Hein. C'est les deux. Et des phénomènes comme des phénomènes d'extermination de masse, bah, je vois le Holodomor, qui est quand même, peut-être nos auditeurs ne savent même pas ce que c'est que le Holodomor.
Oui.
Enfin, il s'agit d'une famine parfaitement planifiée, qui a tué entre, disons, le début de 33 et l'été de 33, 4 millions d'Ukrainiens, hommes, femmes et enfants. Et ça a été voulu, ça a été exécuté par toute une organisation, ça a été pensé. Donc, c'est un génocide, mais qui n'a pas le même. D'abord, il s'agit d'Ukrainiens et pas de Juifs, ce qui fait toujours une différence d'un point de vue religieux, pas d'un point de vue de supériorité quelconque dans le monde des hommes, mais du point de vue de Dieu, hein, puisque les Juifs sont quand même dans la protection et dans l'alliance divine. Bon, mais enfin, c'est des phénomènes de massacre qui sont matériellement comparables, même si spirituellement, ils doivent être analysés différemment, simplement pour des raisons de science historique, enfin de précision intellectuelle. Voilà.
Elisabeth de Fontenay.
Alain Besançon, vous reconnaissez un absolu de la Shoah. Mais je ne suis pas sûre d'accepter le parallèle théologique ou mystique que vous esquissez entre l'absolu de la croix et l'absolu du génocide des Juifs. Entre le meurtre d'un individu, ce meurtre fut-il fondateur et déterminant un avant et un après Jésus-Christ, et celui d'un peuple. Et alors, il y a quelque chose qui est au cœur de notre débat, je pense ici, c'est dont vous parlez du reste, c'est la parabole, je ne sais pas si le mot parabole est juste, la parabole du serviteur souffrant.
C'est les chants du serviteur souffrant,
oui,
c'est la fin,
voilà,
du livre d'Isaïe.
Isaïe 14.
Oui, c'est ça.
43, 6, 9. Si vous permettez, je le lis, parce que c'est un texte magnifique.
Bien sûr.
Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau qui est emmené à l'abattage, comme une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Il n'ouvre pas la bouche. Qui a réfléchi à son destin? Il a été enlevé par la détention et le jugement. Et le psaume 144 reprend la même idée ou la même plainte. Mm-hmm. Pour toi, nous avons été mis à mort, traités comme des brebis pour l'abattoir. Et alors, ces versets ont été interprétés.
Ils sont tout le temps cités,
voilà,
par les,
voilà,
chrétiens, bien entendu. Parce,
voilà,
que ce
ils ont interprété comme une annonce du Christ.
Oui.
Eh bien, je vous pose la question, pourquoi est-ce que les Juifs, contre la théorie de la substitution que vous critiquez du reste vivement, mais pourquoi est-ce que les Juifs ne se réapproprieraient-ils pas cette parabole du serviteur souffrant? Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'appliqueraient pas au sort qui a été le leur pendant la Seconde Guerre mondiale? Encore faudrait-il faire fonctionner avec prudence cette analogie et ne pas donner à penser que les Juifs ont été complètement passifs vis-à-vis de leur sort, puisqu'il y a eu une résistance juive héroïque dans certains camps et dans certains pays.
Varsovie, disons.
Le ghetto de Varsovie. Et je vous pose cette question précisément, parce que je vais ajouter quelque chose. Je remarque que vous refusez que cette indignation historique soit présente jusqu'à la consommation des siècles. Eh bien, en ce qui me concerne, la phrase de Pascal, Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, m'a toujours semblé à la fois pouvoir prendre en charge le deuil interminable des survivants, voire de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et devoir dénoncer, toujours encore, et sans prescription possible, la culpabilité de ceux qui ont collaboré et avec les exterminateurs, et la culpabilité de ceux qui ont laissé faire. Vous voyez, je suis très
Vous avez posé de grandes questions tout à fait fondamentales.
Alain Besançon.
Oui, bien sûr, c'est à vous suivre complètement, et à suivre, disons, les directions que prend la religiosité de la Shoah. Ça consiste à faire de la Shoah un point de départ dans le temps. Hein. C'est-à-dire, au lieu de dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on dirait avant la Shoah, après la Shoah. Et toute l'histoire du monde, telle qu'elle est reconstituée de façon très falsifiée dans la religiosité de la Shoah, consiste à dire, mais tout arrive à Hitler. Le Nibelungen, c'est Hitler. Goethe, c'est déjà Hitler. L'évangile, c'est déjà Hitler, etc. Nous entrons là dans la folie dans laquelle juifs et chrétiens ou agnostiques devront tout simplement nous soulever. Maintenant, dans le sacrifice, disons, du Christ, n'oublions pas qu'il s'agit de Dieu, du moins dans la version...
Pour vous.
Pour la version chrétienne. Hein, pour la version chrétienne, il s'agit d'une incarnation, et c'est Dieu lui-même qui prend les péchés du monde et qui les pardonne. C'est-à-dire que dans la Shoah, au contraire, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et justement, on va indéfiniment présenter la note. Et il y a les peuples qui y ont participé, il y a le peuple allemand, il y a le peuple français qui de plus en plus, par une propagande tout à fait néfaste, est associé comme le coproducteur de la Shoah, les Polonais pendant un certain temps, puis ceux qui n'ont pas intervenu, c'est-à-dire les Américains, puis les Suédois, puis les Suisses, puis petit à petit, n'est-ce pas, le monde entier est pris dans cette malédiction qui ne débouche jamais sur un pardon. Jamais sera pardon. Alors que dans le sacrifice chrétien, c'est pour ça que je trouve que la Shoah est une espèce de caricature du christianisme. Comme la religiosité de la Shoah est une caricature du christianisme, puisqu'il y a l'innocent qui est mis à mort, mais sans qu'il y ait possibilité de pardon. Il y a cette différence quand même. Mais ce qui n'empêche pas d'ailleurs que votre point de vue est très... Il est dans la religiosité de la Shoah.
Est-ce que le pardon n'est pas très, très humanitaire? Vous faites la critique.
Eh bien, voilà, il n'est pas humanitaire. Non, non, c'est très difficile de pardonner.
Non, mais en même temps...
On peut oublier, mais on ne peut pas pardonner.
Mais,
et d'ailleurs, les Juifs gardent cette idée que l'oubli est une chose sainte. Enfin, l'oubli n'est pas une chose sainte. Hein, il n'y a pas de prescription dans la notion...
Oui, mais il faudrait s'entendre sur juif du droit. Le mot « pardon ». Peut-on pardonner aux nazis, aux collaborateurs, à tous ceux qui ont laissé faire? C'est une question. Mais est-ce que cela doit aller jusqu'à la malédiction des générations ultérieures? Personne vraiment ne dit cela. Prenons l'exemple des Polonais, parce que vous le citez à un certain moment, Alain Besançon, vous trouvez qu'il y a une injustice vis-à-vis du peuple français et une certaine injustice vis-à-vis des Polonais aussi. J'ai sous les yeux le livre d'Ari Shavit, Ma terre promise, un livre magnifique sur la naissance d'Israël, sous-titre Israël, triomphe et tragédie. C'est un journaliste d'Haaretz et je précise pour les auditeurs qu'il est favorable à la solution de deux États et très opposé aux colonies de peuplement. Mmh. Et c'est aussi mon cas, comme Elisabeth de Fontenay, j'ai signé l'appel J-Call. Bien, je ferme cette parenthèse, mais ça mériterait d'être dit pour ne pas enflammer les réseaux sociaux. Il dit ceci, la Pologne de l'après-guerre, il a vécu caché à Cracovie. C'est Sternel qui parle, oui, parce qu'il fait parler Zev Sternel, le grand historien que nous connaissons. La Pologne de l'après-guerre était horriblement antisémite. Je me souviens d'une femme hurlant aux Juifs, « Racaille, vous êtes sortis de vos trous, dommage qu'Hitler ne vous ait pas tous achevés. » Je me souviens de Juifs qui revenaient des camps et dissimulaient leur identité, et une fois démasqués, recevaient des injures et des coups. Après-guerre, les rumeurs des pogroms étaient permanentes, parce qu'effectivement des pogroms avaient lieu. Lui-même, Sternel, a été officiellement baptisé, il était enfant de chœur à la cathédrale de Cracovie. Et puis, bien que transformé en catholique, il a compris qu'il ne pouvait pas survivre en Pologne. Et en 46, un convoi ferroviaire de la Croix-Rouge l'a conduit de Pologne en France, d'une de ses tantes à une autre, etc., etc. C'est une réalité que tous les survivants juifs connaissent et disent, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que la Pologne est maudite. La Pologne a entamé un travail de mémoire dont tout le monde peut reconnaître aujourd'hui l'honnêteté. L'Ukraine commence à le faire de manière assez spectaculaire. Elle a réagi plus tardivement, mais elle le fait aujourd'hui. Il serait absurde, si vous voulez, de pointer un doigt indéfiniment vengeur sur ce travail-là. Mais en même temps, comment pardonner à ceux qui ont agi ainsi?
C'est un juif qui m'a pacifié sur cette question. C'est un juif que j'avais rencontré dans la ville de Beersheba, où je l'ai interrogé. Vous connaissez Beersheba, c'est pas une ville très, très drôle, dans le désert du sud d'Israël. Et je lui parlais à peu près de l'attitude polonaise. C'était un juif polonais, dans les termes à peu près du livre que vous avez cité. Il m'a dit oui, mais n'oubliez pas que quand un Polonais abritait ou sauvait un juif, et en France, il avait des ennuis. En Pologne, il était exterminé, et toute sa famille. Et malgré ça, il m'a donné un chiffre, je crois que c'est 30 000, je crois. Il y a 30 000 Polonais qui ont risqué leur vie, toute leur famille, à sauver des Juifs. Et je crois que dans le cimetière des Justes, en Israël, là où sont recueillies la mémoire de ceux qui ont fait des choses pour les Juifs, là, c'est en majorité des Polonais. Donc il faut quand même, ce n'est pas décidable tout ça. Il faut garder un sentiment de justice et d'équité.
Élisabeth de Fontenay.
Je voudrais vous demander pourquoi vous marquez une hostilité si forte à la loi Guesso. Vous dites qu'elle judiciarise la discussion intellectuelle. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt à un moment du reste très, très névralgique où le négationnisme, la propagande du négationnisme avait une grande portée. Il me semble que c'est la loi Guesso, c'est plutôt une loi pour faire taire des humoristes canailles et des pseudo-historiens. C'est pas une discussion intellectuelle. Ça ne condamne pas une discussion intellectuelle. Entre les vrais historiens, il n'y a jamais eu de négation de...
Il n'y a pas beaucoup de négationnisme. Ils sortent de la condition d'historien.
À l'époque où la loi Guesso a été votée, c'était quand même ça le problème. Alors, Guesso est communiste.
Il est dans un camp du mensonge quand même. Il n'était pas question par exemple, il n'y a pas de loi.
Ça a été voté par l'Assemblée nationale.
À l'unanimité, ce qui n'est pas très bon signe. Quand on vote des choses à l'unanimité, c'est qu'il y a
D'ailleurs, le Talmud le dit.
On acquitte. Bon, écoutez, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de loi Guesso concernant le communisme, comme vous le savez. Et même, on a essayé, je crois, au Conseil de l'Europe de condamner le crime du communisme. Ça n'a pas marché. Les Russes l'ont fait capoter. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde aussi. Peu importe.
Mais pour aller un peu dans le sens de ce que vient de dire Élisabeth de Fontenay, il y a quelque chose qui me gêne dans l'expression même de religion de la Shoah. Après tout, quand nous allons à Auschwitz, un sentiment de crainte, de ferveur, un endroit sacré.
Oui.
Mais j'ai lu plusieurs livres de Régis Debray et j'ai lu récemment son entretien, un article dans Le Monde sur les limites que l'on doit imposer à l'humour. Et il dit ceci qui m'a beaucoup intrigué. Le sacré n'est pas le même pour tous, il n'est pas là par toujours, mais il y en a toujours un et partout. Et dit-il, nous, et il s'en félicite, nous sacralisons la Shoah, moyennant quoi, en effet, nous faisons du négationnisme un crime, il faut comprendre la susceptibilité de ceux qui ont un autre sacré et qui ne supportent pas que celui-ci soit blessé. Nous sacralisons la Shoah, ils sacralisent Allah et son prophète. Mais ça me gêne beaucoup parce que ça a l'air de faire de Forisson, précisément, un profanateur. Ça lui donne le crédit du blasphème. Or, le négationnisme ne blasphème pas. Le négationnisme ment. C'est un mensonge absolument criminel, puisque c'est une manière de dire que les Juifs ont inventé le massacre qu'ils sont censés avoir subi pour faire chanter la terre entière. Et en même temps, on réintroduit par ailleurs le délit de blasphème, puisqu'on dit ben il faut pas toucher au sacré des autres, puisque nous ne touchons pas au nôtre. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, contre ce genre d'analogie ou d'amalgame, pour employer un mot à la mode, est-ce qu'il ne faut pas réserver la religion à la religion, c'est-à-dire au culte de la réalité éternelle, comme disait au culte socialement établi de la réalité éternelle. La religion est la religion. Là, nous avons des phénomènes peut-être inquiétants, mais on ne peut pas dire que Auschwitz, pour nous, soit sacré comme un dieu est sacré pour un homme de foi.
Ah, c'est des questions difficiles. Bon, nous devenons musulmans dans la mesure où nous nions l'existence du peuple élu. C'est une chose qui fait que l'islam n'est pas acceptable pour les juifs et les chrétiens, c'est qu'ils nient l'existence du peuple élu. Il n'y a pas de peuple élu, tout le monde est pareil. Alors ça, c'est repris dans la religion du Méditerranée, hein, tout le monde est pareil. D'autre part, faut-il respecter les religions auxquelles nous ne croyons pas? Ça ne paraît pas nécessaire. Nous devons respecter les hommes. Un musulman est... Personne n'a jamais dit que les musulmans sont inférieurs ou sont moins vertueux que les juifs et les chrétiens. Ce serait effrayant de dire ça. Mais je ne vois pas pourquoi il faut respecter l'islam en tant que religion, en tant que système. Non, nous respectons les hommes. Nous ne respectons pas ces autres religions auxquelles nous ne croyons pas. Nous pensons qu'elles sont fausses. Voilà. Et nous n'avons pas à prendre des airs de compunction de vis-à-vis d'elles. Je ne crois pas. Enfin, il me semble. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on dise toujours, et je l'ai entendu parler par des papes, nous respectons infiniment les religions. Non, nous ne respectons pas la religion musulmane. Nous respectons les musulmans. Pas pareil.
Élisabeth de Fontenay.
Alain Finkielkraut, j'aurais aimé beaucoup qu'on parle un peu de Marcion, mais peut-être qu'on n'a pas le temps.
Mais elle est ici pour finir, alors.
Alors, j'ose à peine en parler avec vous, qui êtes un spécialiste. Mais enfin, le marcionisme, qui est une hérésie du premier temps de l'Église, faisait une coupure radicale entre le Premier Testament et le Second Testament. Une religion d'amour dans le Nouveau Testament, une religion de colère.
Ça. C'est Marcion qui dit ça.
Voilà, hein. C'est Marcion qui dit ça.
Non seulement deux religions, mais deux dieux.
Hein. Deux dieux. Et alors, Alain Besançon, quand vous reprochez à certains catholiques de vouloir à tout prix lire, comme les juifs, le Premier Testament.
Ah, nous pouvons
C'est-à-dire le lire de façon non figurative. C'est-à-dire le lire de façon non figurative. Est-ce que vous ne faites pas jusqu'à un certain point du marcionnisme? Et autre question que j'ai à vous poser. Est-ce que si le marcionisme l'avait emporté, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de l'antisémitisme?
Ah bon?
Ah ben oui.
Alors, sur le premier point, je crois que les chrétiens sont obligés un peu par la parole d'Augustin, enfin qui dit patète in vetero, la tête
in vetero, patète in novo.
C'est la lecture figurative.
C'est ça.
Et patent dans le nouveau.
Voilà. Et ça a été la réponse des chrétiens aux hérétiques marcionites, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'Ancien Testament prépare la venue du Christ. Comme dit d'ailleurs Esther dans la prière que vous citez si belle, le saint que tu promets et que nous attendons. C'est quand même un rappel du messianisme. Et c'est comme ça d'ailleurs que le texte d'Esther, c'est l'histoire sainte, telle qu'on l'a enseigné aux chrétiens jusqu'à ma génération, mais qu'on n'enseigne plus, ce qui me paraît fort dangereux. Ça, c'était la première partie de la question. La deuxième était, il y avait une lecture commune de la Bible qui a duré jusque vers moins de 100. Et vers moins de 100, n'est-ce pas, les choses ont commencé à s'échapparer. Le temple a été petit à petit délaissé au profit de l'école et le texte biblique a été lu, commenté, diffusé dans le peuple et commenté par le Talmud, qui est une réflexion sur la Torah. Est-ce que vous évitez toute figure? Je ne crois pas, quand même, dans la lecture juive de l'Ancien Testament.
Ça veut dire quoi, éviter toute figure?
C'est-à-dire, il y a plusieurs lectures. La lecture littérale, ce que dit le texte, et puis la lecture figurée, quoi. Ce qu'il annonce au point de vue moral, au point de vue spirituel, etc.
La lecture figurée au sens de théologie de la substitution, vous êtes hostile à ça.
On aura du mal d'ailleurs à se sortir de la théologie de la substitution. On aura du mal. Elle est rejetée.
Je sais bien.
Et on est très gentil avec les juifs, mais ça ne change pas.
Hein, théologie de la substitution, ça veut dire l'Ancien Testament vaut en ce qu'il annonce le nouveau.
Voilà, non, il a été dit que toute la Bible est inspirée. Tous les livres se valent, elle est inhérente de la première à la dernière. Ça a été dit au Concile de Trente, et ça n'a jamais été aboli, c'est la doctrine commune. Non, ce qui est important, c'est de savoir si les chrétiens ont recueilli la totalité de l'héritage juif. Or, c'est ça la théorie de la substitution. Parce que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Les juifs ont, il y a un reste d'Israël, c'est ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal, hein, par exemple. Et cela, c'est le reste d'Israël. Les autres juifs, ils disparaissent, tout simplement, ils ne sont plus juifs. Alors le reste d'Israël, dans la théorie de la substitution, c'est les chrétiens. Et ça a été donné de très bonne heure dans l'histoire, hein, dans l'histoire du christianisme.
Mais
dès l'état de l'Église.
L'Église revient dessus, puisque précisément, elle dit aujourd'hui que les juifs sont les frères.
Alors attendez, ça n'existait pas au temps de Pie XII.
Voilà,
malheureusement.
Mais ça existe depuis...
Oui,
depuis
mais
Jean-Paul
bon, c'est
III,
très
Jean-Paul
gentil,
II.
C'est très gentil. Mais enfin, maintenant, d'après saint Paul, ça, quand même, c'est dans les Écritures chrétiennes, les promesses faites aux Juifs sont gardées. Et les Juifs gardent des privilèges, gardent les prophètes, gardent tout ce qu'ils ont eu. Dieu ne retire jamais ce qu'il a donné. Alors bon, dans ce cas-là, c'est en réfléchissant sur ce texte de saint Paul essentiellement que l'Église a commencé à faire son travail théologique, qui n'est pas achevé. À ma connaissance, qui n'est pas achevé.
Il n'est pas achevé, et donc nous ne l'achèverons pas aujourd'hui.
Oh non.
Et je dois malheureusement clore cette émission. Alors je rappelle, Alain Besançon, le titre de votre livre, Problèmes religieux contemporains, un livre important publié aux éditions de Fallois. Elisabeth de Fontenay, j'ai cité Actes de naissance, vos entretiens avec Stéphane Bou, paru il y a 2 ou 3 ans aux éditions du Seuil. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Situation de la France. Mes invités seront Jacques Julliard et Pierre Manant. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Dechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean-Michel Coqui. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, L'homme et le corbeau. Une étrange proximité avec Michel Pastoureau.